C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bien, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est le fun de revenir en onde hein, après ces deux premières saisons qui ont été quand même assez mouvementées et remplies. Alors, pour cette toute première diffusion, aujourd'hui, lundi à 17h, en ce 9 septembre 2024, une rediffusion donc aussi mardi à 21h et vendredi à 13h sur Canal M, la radio du Visez-Voix, la voix de l'inclusion qu'on peut aussi capter sur le câble, sur le web, à TuneIn et puis à Radio Player et ou en balado diffusion. Merci d'être là pour une troisième année et merci pour la confiance. Avant de commencer, je voudrais rappeler plusieurs choses. L'heure où l'arc-en-ciel se lève est la première émission pan-canadienne de langue française sur les enjeux et actualités queer. Elle se veut un phare pour les communautés des diversités et des orientations sexuelles et des affirmations de genre, une source d'informations crédibles et vérifiées et vérifiables. Alors, par souci de transparence, je vous le dis tout de suite, cette émission a un point de vue, celui des diversités si nommées, donc leur droit d'être et celui de leur dignité. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est clair que ce n'est pas la bonne émission à écouter et ce n'est pas la bonne émission à se venir se faire interviewer aussi. L'émission valorise les faits, les contextes, les idées et beaucoup moins les opinions. Et nous souscrivons à la déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Aujourd'hui, donc, nous sommes à Québec. Nous sommes à Québec pourquoi? Parce que Québec est un lieu névralgique de la francophonie du continent américain. Parce que c'est un public qu'on aime. Parce que c'est la fierté ici. C'est la fête arc-en-ciel ou la fête de fierté Québec. Et nous enregistrons cette émission en ce 1er septembre, en pleine festivité. Puis on est ici parce que c'est beau Québec, puis j'ai grandi ici. Et parce que ça me tentait de revoir ma famille et ma ville natale. Alors, vous entendez un petit peu de bruit parce que nous sommes devant public. Nous sommes donc accueillis par Ariane Robitaille et Carolina Escobar, qui sont les deux gentilles propriétaires du restaurant Tequila Lounge à Québec, sur la rue Saint-Joseph, en Basse-Ville. On parle déjà tout à fait à Ariane. Approche-toi du micro, Ariane. Salut.
Allô, allô.
Merci de nous recevoir.
Bien non, mais c'est un grand plaisir.
Alors, juste un petit mot sur Tequila Lounge.
Bien, en fait, le Tequila Lounge, c'est l'histoire de moi et ma conjointe Carolina, qui a commencé au Mexique, à Mexico City. On a fait une cuisine de rue là-bas pour payer notre mariage, premier mariage gay à Acapulco. Puis par la suite, on est venu ici en voyage de noces, mais ça va faire bientôt 10 ans qu'on est en voyage de noces au Québec. Donc, on n'est pas retourné. Puis ensuite, on a ouvert le Tequila Lounge il y a 9 ans.
Wow, déjà. Ça.
Voilà.
Bien, merci de nous accueillir. Commençons tout de suite notre édition d'aujourd'hui. Alors, Québec, ville charmante, ville coquine, ville mystérieuse, ville créatrice et avant-gardiste, mais aussi ville des radios poubelles, ville progressiste, mais aussi avec des relents très conservateurs. Plein d'autres émissions de radio ont tenté de percer ce fameux mystère de Québec. Nous, on n'a pas la prétention de faire ça lorsque l'arc-en-ciel se lève, parce que c'est pas notre rôle de juger les gens et les autres. On veut connaître la réalité queer de Québec et pour ce faire, on a mis plein de personnes queer qui vivent à Québec autour de la table. Il y en a plusieurs, vous allez voir ça. Dave Tremblay, président de Alliance Arc-en-Ciel Québec, est devant le micro. Alors, bonjour Dave.
Salut.
Et on reçoit aussi Alexandre Bédard. Ils sont pas au micro, mais on va les amener tout à l'heure. Alexandre Bédard, conférencier, formateur en santé trans et sa conjointe Roxane Orsini. Vraiment, ils ont une histoire très intéressante. Vous avez entendu Ariane Robitaille, donc copropriétaire du restaurant Tequila Lounge. Soufiane Enani, qui est chargée de projet à Arc-en-Ciel Québec, qui nous arrive depuis 8 mois. Approche-toi du micro, on va dire un petit bonjour, Soufiane.
Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation.
On est très content de te recevoir. Michel Doré. Alors, Michel Doré, c'est un ami de longue date,
oui.
Professeur émérite en sociologie des sexualités. Elle est retraitée de l'Université Laval. Bien, retraitée.
Oui, retraité maintenant. J'ai 70 ans quand même passé. Je suis le grand-père ici, alors ça me fait plaisir d'ailleurs parce que c'est une belle famille. Je suis très content d'être parmi les gens qui sont invités aujourd'hui et honoré d'être là.
Et puis, nous avons aussi avec nous Michel Hubert, qui est adjoint administratif à la Ville de Québec, mais c'est aussi une personne très impliquée dans les communautés ici. Et on a aussi, évidemment, mon chroniqueur qu'on va entendre. Vous savez, Brian Saint-Louis, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. On ne s'était jamais venu en personne. Alors, il est ici. On va lui parler tout à l'heure aussi de la vie queer à Québec. Puis, je lance d'ailleurs la discussion. Et je pense que la question va se poser à Dave, parce qu'on est en pleine fête arc-en-ciel ou fête de fierté à Québec. C'est quoi la vie queer à Québec?
Bien, en fait, c'est ça, la vie queer, effectivement, la fête arc-en-ciel, c'est notre 20e édition cette année. Donc, pour l'occasion, on a décidé de s'appeler Fierté de Québec. On va juste mettre ça au clair tout de suite au début parce qu'on allait à l'extérieur, notamment à Montréal, puis on disait fête arc-en-ciel, c'est quoi ça, fête arc-en-ciel? Puis on disait que c'était la Fierté de Québec. C'est juste plus naturel. Puis pour notre 20e édition, on s'est dit vraiment que c'était le bon moment de refaire notre image de marque puis de montrer l'ampleur que l'événement a pris au cours des années parce que, ben oui, Québec, c'est une ville queer où il y a une belle vie communautaire, des organismes engagés, beaucoup de gens, peut-être un peu moins centralisés, moins connus que la vie queer à Montréal. Reste qu'il y a beaucoup de belles personnes à Québec, de beaux endroits à fréquenter. Tu l'as nommé, le Tequila Lounge fait partie clairement de la vie communautaire, de la vie queer à Québec. On en connaît plusieurs. Donc, oui, c'est ça, la fierté à Québec. Ça a été une belle édition. On est très heureux. C'est sûr qu'on ne contrôle pas toujours les événements météorologiques, mais bon.
On est au Canada, on est au Québec, puis bon, ça arrive. Ariane, justement, parce que toi, tu vis en couple. En fait, félicitations, parce que vous êtes tous les deux des nouvelles mamans.
Bien, merci. On est bien heureuses de nos nouveaux rôles.
Oui. Alors, comment c'est vivre en couple queer à Québec?
Bien, en fait, je crois qu'au travers des années, on a trouvé également notre place. Il y a une place encore à faire, malheureusement. Mais c'est la réalité à Québec. C'est aussi, il y a une liberté. Je veux dire, nous, ensemble, Caroline et moi, on a vécu au Mexique. Et clairement, si on se compare au Mexique, c'est totalement différent. Mais tu sais, on sent encore parfois pesant. On sent encore parfois les regards. C'est parce que, puis on s'entend, nous, physiquement, bien, on est un peu plus style garçonnière, donc les deux, on voit certains jugements encore. Mais, par exemple, il y a beaucoup d'ouverture. Nous, en tant qu'également entrepreneurs lesbiennes, on se fait de plus en plus reconnaître. Puis les gens aussi sont plus portés, souvent même à nous poser certaines questions. Mais ça démontre une ouverture, puis c'est ce qui est plaisant.
Le petit nouveau qui est arrivé depuis 8 mois à Québec, comment tu trouves la vie queer ici à Québec?
Écoutez, je dirais plutôt génial. Je suis content d'être ici. Je pense que la vie queer à Québec, pour une personne racisée, notamment pour moi en étant marocain, c'est une vie qui se construit au fur et à mesure. C'est une lutte au quotidien pour avoir accès à plus d'espace, se faire des amis, créer des liens et des intersections avec d'autres personnes queer, mais aussi d'autres identités. Mais je dirais que c'est une ville où la vie queer est possible, légalement déjà, et puis même socialement. Donc, ouais.
J'aimerais, Dave, qu'on parle... À Montréal, on parle souvent du village. Dans plusieurs villes du monde, il y a des quartiers identifiés aux communautés queer. À Québec, est-ce qu'il y a un village?
Non, il n'y a pas de village. Puis en fait, tu as parlé un peu des radios poubelles au début. Je me souviens des propos là, d'un animateur de radio que je renommerai pas, qui avait appelé la rue Saint-Jean le boulevard Sida. Hein? Ça, Michel me regarde avec un...
On peut le nommer, c'est André Arthur.
Ben oui, donc nommons-le, mais effectivement, donc oui, effectivement, à Québec, peut-être que c'est un peu plus dans le centre-ville qui a une vie queer. Reste que Québec, c'est une grande ville avec des banlieues, comme tu l'as nommé. Puis ça reste que... Il y a des gens queer partout dans la ville. Donc, il faut quand même faire rayonner l'arc-en-ciel partout dans la ville de Québec.
J'aimerais amener deux autres personnes à la discussion, puis je vais aller à Michel après ça, mais j'aimerais amener deux autres personnes à la discussion. J'ai nommé tout à l'heure Alexandre et... excuse-moi, Roxane. Vous êtes un couple dans la vie. Vous vivez une relation assez particulière. Je vais vous laisser la décrire.
Oui, mais dans le fond, moi, je suis un homme trans. Donc, on s'est rencontrés, moi et Roxane, au drag, avant ma transition.
Donc vous étiez deux femmes à l'époque.
Exactement. On a été un couple de femmes là, durant un an. On s'est fait présenter par une drag queen qui, d'ailleurs, était là quand j'ai demandé ma copine en fiançailles et qui sera là à notre mariage aussi. Tu veux-tu...
Roxane, c'est assez intéressant parce que tu étais en couple avec une femme lesbienne. Est-ce que tu étais au courant qu'Alexandre était dans une remise en question, un processus?
Oui, bien, en fait, quand Alexandre a débuté sa transition, ça faisait déjà un an qu'on était ensemble, mais il y avait des questionnements aussi au niveau de son genre. Donc, quand on s'est rencontrés, c'était pas un enjeu. Je savais que ça allait se concrétiser un jour, mais je savais pas quand est-ce que ça allait se faire. Fait que quand il m'a annoncé ça, je suis pas tombée des nues, mais j'avais quand même l'impression qu'on avait une histoire à avoir ensemble, puis il fallait qu'on continue. T'sais, c'est quand même juste une petite page de notre histoire, parce que ça fait plus longtemps que je suis avec Alexandre que j'étais avec ma blonde au départ, dans le sens où ça faisait un an qu'on était ensemble.
Puis tu te définis comme une personne pansexuelle, si j'ai bien...
Exactement, c'est ça. Fait que moi, j'ai fait 3 coming out. J'ai fait un coming out lesbienne, parce que j'étais dans une relation lesbienne. Ensuite, Alexandre a fait sa transition. Donc là, moi, j'ai fait un coming out bisexuel. Puis finalement, je m'étais dit, ouais, ben c'est peut-être pas ça, finalement. Fait que il y a eu beaucoup de remises en question aussi, là, dans la semaine où on a eu l'annonce de la transition d'Alexandre. Fait que finalement, oui, c'est plus facile pour moi aussi de l'expliquer comme pansexuel, parce que c'est pas parce que quand on est tombé amoureux, je suis pas tombée amoureuse d'Alexandre parce que c'était une femme. Je suis tombée au départ, tu sais, puis je reste avec parce que c'est un homme aujourd'hui. Puis dans le sens où si on avait décidé de pas avoir de relation ensemble, c'est pas parce qu'il avait transitionné, c'est parce que notre relation fonctionnait plus. Puis 2 ans et demi plus tard, on commençait les démarches, puis on a un garçon de 2 ans et demi qui est né en 2021, puis on a une petite fille qui est née en 2023. Fait que ça fait partie aussi de notre réalité puis de nos enjeux, là.
Et comment vous vivez votre couple à Québec? Comment ça fonctionne? C'est quoi? C'est positif?
Je dirais qu'on a le privilège, nous, dans notre situation, dans la rue, les gens nous voient, ils voient un couple hétéro cisgenre. T'sais, on n'aura jamais à s'expliquer là-dessus. C'est au contraire, quand que j'ai à faire un coming out, si je décide d'en faire un, ou que là, les gens vont être intéressés. Puis c'est un peu ça que Roxane et moi, on travaille beaucoup pour ça. T'sais, je travaille à l'Alliance Arc-en-Ciel comme conseiller aux enjeux trans. On travaille à Gris-Québec pour faire de la démystification. On veut vraiment expliquer que ça existe, des couples comme nous. Puis on veut montrer qu'on est normal comme n'importe quel autre couple. Donc, dans la vie de tous les jours, je dirais qu'on a une famille choisie. Donc, on a des gens de la communauté qu'on a intégrés dans notre vie, au point où que même nos enfants, on appelle ça des marraines et parrains de la diversité. Donc, c'est des gens qu'on a sélectionnés qui sont au courant de la vie queer, justement, des communautés et tout ça, et qui sont capables de répondre aux questions de nos enfants sans que ça soit nous-mêmes, parce que ce n'est pas nécessairement les parents qui sont les mieux placés pour avoir ces sujets-là, des fois. Fait qu'on voulait vraiment des gens qui comprennent cette réalité-là puis qui soient capables d'expliquer à nos enfants notre parcours aussi.
Michel Hubert, toi aussi, on a parlé d'immigration tout à l'heure avec Soufiane.
Oui.
Toi, Michel, tu es immigrant plus ou moins récent, hein, à Québec?
Oh, ça fait 14 ans que je suis
quand
à Québec.
Quand même, 14 ans.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est quoi la vie queer à Québec? Ta voix comment?
La vie queer à Québec, c'est très différent de Montréal. Montréal, effectivement, il y a un quartier, c'est comme Paris, il y a le Marais. Ici, c'est comme plus dilué, en fait, hormis deux bars, le Drag et le Saint-Mathieu's. On est comme plus intégré dans le tissu de la société. Mais j'ai l'impression qu'il y a une soif chez les LGBT à Québec d'autres choses que les bars, par exemple. Parce que très récemment, il y a trois hommes gays à Québec qui sont partis, un groupe de 5 à 7 LGBTQ+, à Québec, qui ont fait des 5 à 7 dans des bars, mais aussi au cinéma, au théâtre, etc. Et ils ont beaucoup de succès. Peut-être même trop de succès. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu débordés. Le dernier, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et j'ai l'impression que c'est la preuve qu'il y a une soif pour une autre vie que celle qu'on trouve dans les bars.
Mon Dieu, que ça passe vite. On a déjà fait la moitié de cette discussion-là, puis on n'a pas encore eu le temps de tout dire. Michel Doré, ça fait quand même longtemps que tu roules ta bosse à Québec. La vie queer, comment a-t-elle évolué?
Bien, moi, qui a vécu la moitié de ma vie à Montréal et la moitié à Québec, je peux comparer. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à Québec, en fait, parce que c'est plus facile de socialiser dans une petite ville. Assez curieusement, c'est plus facile de rencontrer des gens, de connaître les gens. Il y a un esprit communautaire et je pense que la fête de la fierté de Québec illustre beaucoup cet esprit communautaire. Là, presque tout le monde connaît tout le monde assez rapidement. Et alors, donc, pouvoir développer des familles choisies, comme on parlait à l'instant, c'est peut-être plus facile à Québec. En tout cas, moi, je trouve ça. Et le fait d'avoir enseigné aussi, bon, m'a permis de connaître beaucoup, justement, les gens plus jeunes que moi et qui participent beaucoup à cette vie communautaire-là et qui la renouvelle jusqu'à un certain point.
Brian Saint-Louis, c'est le fun de se voir en personne, je le dis. Ben oui, parce que nous, on se parle en Zoom, et puis t'es toujours tout petit, mais là, imaginez-vous que je fais 6 pieds 2, puis il est plus grand que moi, faut le faire, hein. Dis-moi, c'est quoi les défis de vivre queer à Québec?
Ah, ce serait les peut-être les défis d'une plus petite ville que Montréal, parce que on parle un peu de... Il y a du dynamisme, mais il y en a moins qu'avant quand même. Moi, je parle de ma génération. Je suis arrivé à Québec en 2000, il y avait plusieurs bars, il y avait plusieurs endroits, il y avait des commerces. Ça a diminué beaucoup au cours des dernières années. On a perdu des bars comme le Ballon Rouge, l'Amour Sorcier, le Zazou, les noms qui vont résonner dans la tête de certains. Là, il nous reste que le Drag de Saint-Mathieu aussi, mais il y a moins d'établissements, il y a moins d'endroits, la population vieillit, les jeunes sortent moins, je veux dire, on fait qu'on a moins... Le tissu social est un peu plus difficile à Québec, peut-être à cause de ça, parce qu'il y a moins de... Il y a moins d'esprit de communauté. On est moins, donc il y a moins d'esprit... Il y en a un quand même. Je ne vais pas le diminuer, mais il y en a peut-être moins qu'il y en a déjà eu. Les applications aussi font que les gens restent plus à la maison qu'avant. Donc, c'est des défis qui s'apparaissent plus dans une petite ville peut-être que dans une grosse, parce qu'il y a plus de place pour la marginalité, pour les groupes plus petits dans une plus grande ville que Québec, disons.
Dave Tremblay, qui est, je répète, président de la Fierté Québec. On a parlé un peu de la radio poubelle, je l'ai fait en début d'émission, mais surtout, il y a une espèce de courant de pensée qui est peut-être pas juste à Québec, mais qui s'exprime assez fort à Québec, cette espèce de mouvance d'extrême droite, anti-drag queen. Est-ce que c'est vraiment aussi fort et aussi violent qu'on le pense?
En fait, c'est peut-être vu un peu avec le prisme déformant de Montréal. Honnêtement, j'ai pas
l'impression, moi non plus, que ben, c'est pire qu'ailleurs. Là. Je veux dire, quand on écoute Québécois, c'est fait à Montréal, on n'a pas toujours l'impression que c'est pire que Québec. Là.
Mais non, ouais. En fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une diversité d'opinions. Effectivement, ouais. Québec, au niveau politique, souvent, c'est peut-être un peu plus conservateur que Montréal, qui est plus libéral, qui est plus Québec solidaire. Mais il reste que Québec est quand même, honnêtement, une ville assez progressive. Oui, on a des enjeux de personnes, des fois, qui s'expriment pas toujours de la bonne manière sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Oui. Malheureusement, ça, c'est un enjeu qui est trop fréquent dans notre société sur l'ensemble des sujets. Je vois Michel qui...
Oui, parce que quand tu regardes aussi la carte de Québec, le centre-ville de Québec est toujours très à gauche, beaucoup plus à gauche sur le plan politique. C'est pratiquement toujours des partis de gauche qui l'emportent.
Oui, on a deux députés Québec solidaire en ce moment. Oui, Agnès Maltais, longtemps lesbienne aussi, très connue.
Et c'est un peu... La réalité de Québec, moi qui ai vécu ici, c'était la haute ville versus la basse ville au départ. Là, c'est la ville-centre versus les anciennes banlieues. Et peut-être la fonction publique versus les entrepreneurs?
Peut-être un peu, mais j'ai l'impression, honnêtement, qu'il y a quand même place à la nuance dans tout ça. Mais je pense que, comme Michel le disait, Québec reste quand même une ville progressive, généralement, le plus dans le centre. Ouais. C'est sûr qu'on va dans des banlieues, des fois, un petit peu... Il y a moins d'endroits pour les communautés queer quand on va, par exemple, à Beauport, à Charlebourg, quand on va dans Portneuf ou quand on sort un peu, justement, du centre-ville de Québec. Il y a moins de lieux. Reste que il y a quand même, je pense... Des mentalités qui peuvent être acceptantes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre.
Michel, j'aimerais revenir là-dessus. Il y a quand même une espèce de courant. Il existe à Québec comme ailleurs. Ce courant-là, est-ce qu'on doit le craindre?
Bien, il y a un courant de droite, hein, on le voit, c'est partout, c'est mondial, hein, c'est pas plus Québec que Montréal, il y a les États-Unis, il y a en Europe, ce qu'on appelle les queericides, on a même inventé un terme pour ça, il y a de plus en plus de personnes assassinées parce qu'elles sont trans, non-binaires, etc. Donc, il faut sensibiliser, puis c'est pour ça que des événements comme la Fierté de Québec, c'est important pour avoir une occasion festive, mais aussi il y a plein de conférences, il y a plein de choses qui amènent les gens à se parler, à solidariser, à penser qu'il y a un combat. Il y a des combats menés, en fait. Il y en a pas juste un. Il y a les personnes trans, non-binaires, puis puis même, tout n'est pas réglé là, pour les personnes gays, lesbiennes. Puis il y a plein de nouveaux termes, hein, demi-genre, gris-genre et tout ça. Moi, je vous entendais tout à l'heure, puis je trouve ça très beau parce que je trouve qu'on commence à avoir des nouveaux modèles, hein, de couple. Et puis, tu sais, pansexuel, on n'entendait pas ça tant que ça il y a encore quelques années, demi-sexuel, demi-genre, à genre, etc. Moi, j'apprends, je suis tellement content d'avoir le métier que j'ai, comme si je suis sociologue de sexualité, je suis content de vivre avec des jeunes qui m'apprennent tous les jours des choses. Puis on va parler de mon livre tantôt. Et c'est pour ça que moi, j'ai le goût de partager ce bonheur-là, de découvrir cette diversité, cette richesse, cette créativité dans la vie de tous les jours, les gens qui réinventent la vie, qui réinventent leur propre vie et qui, à mon avis, nous prépare un monde meilleur. Alors oui, il y a les violences, tout ça, mais en même temps, il y a des nouvelles générations qui montent et qui sont très résilientes et je dirais même résistantes.
Je pense que je vais aller à Ariane tout de suite. Ariane, tu mentionnais tantôt que des fois, quand tu marches dans la rue avec ta conjointe, parce que vous avez peut-être l'air plus masculine, ça, là, on parle d'expression de genre, ou de, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais je pense clairement, donc vous donnez une image qui parfois peut susciter des réactions.
Bien, en effet, puis je pense aussi que certaines personnes qui ne sont pas nécessairement alliées aussi ont certaines images physiques étiquetées de la communauté. Je pense que le style garçonneur en fait partie ou pas, mais malheureusement, on les voit. Mais tu sais, on sent en sécurité tout de même.
Vous sentez sécurité?
On n'a jamais eu à intervenir certaines fois parce que bon, il y a eu des commentaires, mais jamais à physiquement à intervenir, jamais au grand jamais. Puis à chaque fois qu'on intervient, sont rares les fois, on s'entend, mais il y a des alliés autour de nous qui vont nous aider dans ces moments-là.
Donc, c'était Ariane Robitaille. Maintenant, Roxane Orsini.
Bien, en fait, nous, au quotidien, quand on se promène avec notre famille, ça va toujours vraiment bien. Donc, on essaye quand même de montrer un peu de notre queerness à travers notre réalité parce qu'on ne veut pas non plus que nos enfants... En fait, je pense que c'est la mission qu'on se donne tous les deux, c'est qu'on veut pas que nos enfants, dans 15-20 ans, se sentent obligés de devoir faire un coming out, puis se sentent obligés d'avoir le stress de dire « Maman, papa, je pense que j'aime une fille, je suis une fille, mais là, je veux pas que ces enfants-là aient ce stress-là, parce que je me rappelle, moi, dans comment je me sentais quand j'ai fait mon coming out, je veux plus jamais vivre ce stress-là de ma vie. Je pense que ça a été plus stressant pour moi de faire un coming out qu'accoucher. » Fait que je veux pas que mes enfants aient ce sentiment-là. Puis là, pourquoi que ça fonctionne aussi bien dans notre relation, c'est justement parce que j'ai cette ouverture-là, je pense. Puis nous, on va toujours aider, démystifier, répondre aux questions. Je suis toujours super ouverte. Fait que oui, au quotidien, on essaye quand même un peu de faire des commentaires à l'environnement qu'on a.
Je pense qu'au niveau des personnes trans, on est présent, mais on n'est peut-être pas autant présent qu'on... Surtout les hommes trans. À un moment donné de notre transition, on dirait qu'on dit « OK, après ça, je disparais, je vis ma vie d'homme, puis on n'en parle plus. » Puis je me rends compte que cette réalité-là est peut-être moins connue. Et même dans mon travail, j'ai des collègues qui ne le savaient pas, puis quand ils ont des réactions sur, exemple, les tampons dans les toilettes des hommes, ben je me sens obligé de faire un coming out pour les éduquer, puis je me dis « OK, mais c'est simplement parce qu'ils connaît pas la réalité, puis il ne sait pas. Et quand je le fais, ce coming out-là, je me rends compte que la personne, après ça, elle a une ouverture vraiment sur ce qu'on vit. Puis là, elle se dit, OK, mais dans le fond, c'est des gens normaux comme moi, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment important, justement, d'avoir cette ouverture-là, mais en même temps, je trouve tellement que c'est un poids pour les générations futures d'avoir ce devoir-là d'éduquer. Puis on le voit, là, quand on fait des démystifications dans les écoles, les jeunes sont plus éduqués que les profs. C'est souvent les profs qu'on va éduquer, là, en bout de ligne.
Mais c'est important. Parce que toute cette violence, la montée de la haine, de la violence, ça repose sur l'ignorance, la désinformation, la mésinformation. C'est pour ça qu'on a une responsabilité à la fois individuelle et collective,
exact,
d'éduquer et de sensibiliser les autres.
Mm-hmm. Justement, je pense que je vais aller à Soufiane. Soufiane, tu vis à ce qu'on appelle en bon langage très technocratique, tu vis à ce qu'on appelle l'intersection d'être une personne queer et d'une personne racisée. À Québec, comment ça se passe pour toi?
À mon sens, ce sont des luttes qui se marient, qui sont très croisées. Je pense que c'est la même lutte, parce que d'abord, c'est des luttes qui ont les mêmes ennemis, les mêmes adversaires, mais aussi parce que ce sont des luttes croisées dans le sens où on lutte contre le racisme au quotidien. En partant du racisme qui est très ordinaire, des fois, très exposé à la question « tu viens d'où ?» jusqu'aux situations un peu plus compliquées, mais aussi la lutte contre le racisme au milieu de la communauté LGBTQ+, des fois À titre d'exemple, on m'a déjà parlé d'assimilation, par exemple, ici. En étant ici, comment je vais faire mon assimilation en étant une personne queer pour devenir le bon Québécois? Mais je ne généralise pas, c'est vraiment des cas isolés par rapport au reste de la communauté qui reste quand même un espace
très inclusif. Mais il y a un mouvement mondial qui est très anti-immigration, une extrême droite qui est en montée partout, puis on n'est pas à l'abri de ça ici au Canada ou au Québec, à Québec. Est-ce que tu ressens ça présentement ou c'est trop tôt pour toi pour le voir?
Je pense qu'on pourrait le ressentir d'une façon ou d'une autre, sur les réseaux sociaux, beaucoup plus, mais aussi des fois dans des discours un peu déguisés, si vous voulez, comme je vous ai parlé d'assimilation. Mais je pense que la bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'il y a des rapports de solidarité qui se créent aujourd'hui. Moi, par exemple, en arrivant ici, j'ai pu quand même être en contact avec des personnes, que ce soit à travers l'Alliance Arc-en-Ciel, mais aussi dans d'autres espaces, avec des personnes qui soutiennent les personnes racisées ici pour qu'il ait plus de visibilité, pour qu'il soit outillé contre une montée potentielle du racisme à Québec.
Un mot de la fin de cette première partie à toi, Dave. Est-ce qu'on est en sécurité à Québec? Est-ce qu'il va falloir aussi penser à se sécuriser davantage comme communauté?
Bien, en fait, Québec vit pas sous une bulle. Effectivement, on sent le vent du sud qui souffle fort dans notre cou, mais on travaille fort avec les organismes qui sont présents à Québec, qui sont très dynamiques, à faire en sorte que Québec demeure une ville sécuritaire. La ville de Québec est une grande alliée. Honnêtement, on a un conseiller qui est responsable du vivre ensemble à Québec. Je sais, il était là hier, il a marché aujourd'hui avec nous dans les rues. Donc, honnêtement, on a une belle ville sécuritaire, Québec, mais il faut continuer à travailler pour que ça le demeure.
Et puis, dans cette deuxième partie qui s'en vient, nous allons parler justement de ces enjeux avec lesquels nous faisons face mondialement au niveau de nos communautés queer. À tout de suite! Bonjour tout le monde. Ah oui, j'étais pour faire une erreur technique, j'en ai fait une. J'ai oublié d'allumer mon micro. Bonjour, bienvenue à cette deuxième partie en direct, pas en direct, enregistrée au restaurant Tequila Lounge à Québec. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 82. Depuis notre dernier rendez-vous, donc, on a parlé de beaucoup de choses au Québec et au Canada. C'est passé beaucoup, beaucoup de choses, en fait, au Québec et au Canada. Alors, d'abord, il y a eu ces fabuleux Jeux olympiques et les Paralympiques à Paris sous le signe de la diversité avec, en toile de fond, la montée des extrêmes droites en Europe. Il y a eu l'arrivée de Kamala Harris comme candidate présidentielle aux États-Unis qui pourrait peut-être barrer la route à Donald Trump et de l'extrême droite dans ce pays, ou presque. Mais dans ce pays, il y a quand même eu 500 projets de loi à peu près anti-trans et anti-queer déposés dans l'un ou l'autre des États ou l'une ou l'autre des municipalités. Et puis, il y a des sondages inquiétants qui montrent une montée d'une certaine intolérance envers nos communautés, même une montée de la violence. Et puis, pas loin, à Sherbrooke, deux hommes queer ont été piégés sur Grindr pour être tabassés. Alors, comment vont nos communautés en 2024? Je répète donc nos invités aujourd'hui. Dave Tremblay, président d'Alliance Arc-en-Ciel Québec. On a aussi Alexandre Bédard, conférencier en santé trans, conférencier formateur en santé trans, et sa conjointe Roxane Ursini. Nous avons aussi Ariane Robitaille, qui est propriétaire du restaurant qui nous accueille, Soufiane Enani, qui est chargée de projet Arc-en-Ciel Québec, Michel Doré, professeur émérite en sociologie des sexualités à l'Université Laval. Et on reçoit aussi Michel Hubert, qui travaille à la Ville de Québec, et notre Brian Saint-Louis, qu'on aime beaucoup, qui habituellement fait les chroniques littéraires, mais il va nous parler de Québec aujourd'hui. Bien, je lance la balle. Comment vont nos communautés dans le monde en 2024, en septembre 2024?
Je peux commencer, en fait, oui, à parler de ça. J'ai l'impression que ça pourrait mieux aller, pour reprendre un euphémisme. Puis hier, justement, Michel donnait une conférence pendant la fierté. Puis j'ai appris, justement, que la Russie était un des premiers pays qui avait décriminalisé l'homosexualité. Puis là, on regarde ça avec nos yeux aujourd'hui, puis on trouve ça complètement aberrant. On voit qu'il y a des reculs partout dans le monde. Puis il faut travailler fort au Québec, au Canada, pour éviter que ça vienne à reculer ici. On a toujours continué à avancer. Peut-être que là, on avance moins vite. Disons oui. Ça, on avance moins vite, Michel.
D'autant plus que les violences, là, c'est beaucoup commis par des jeunes. Toutes les recherches là-dessus le montrent. Là. Tu sais, les attaques homophobes et tout ça, c'est pas des personnes âgées qui font ça. C'est des jeunes, souvent des jeunes adultes et même des ados. Alors, c'est pour ça que faire ce que le Gris Québec fait, par exemple, d'aller dans les écoles...
Le groupe de ressources et d'intervention sociale, c'est ça?
Oui, qui existe à Montréal aussi. Il y en a partout, Québec. Il y en a un petit peu partout maintenant. C'est très important de sensibiliser. Il faut que l'éducation à la sexualité dans les écoles parle de la diversité sexuelle. Tu sais, tu parlais aux États-Unis des lois, mais il y a actuellement plus de 1500 ouvrages qui parlent des réalités LGBT qui sont interdits aux États-Unis dans certains États, enlevés des bibliothèques, enlevés même des librairies. Alors, c'est très, très, très alarmant parce qu'il y a des gens d'extrême droite, tu l'as dit, qui ne veulent plus qu'on parle positivement de la diversité sexuelle et de genre, qui veulent plus qu'on en parle, point à la ligne. Et c'est inquiétant. On va dire c'est loin d'ici, la Russie, les États-Unis, mais il y a des échos ici. On sait encore à Sherbrooke, il y a quelques jours à peine, là, il y a deux hommes qui ont été sauvagement attaqués par des jeunes encore là. Alors oui, il faut s'inquiéter, il faut agir, surtout parce qu'il y a une montée qui est mondiale actuellement.
Soufiane, j'aimerais que, parce que tu as ce regard quand même assez récent sur Québec, mais tu as quand même vécu ailleurs, tu as vécu pas mal partout dans le monde, si je comprends bien. Comment tu vois ça, ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de reculer?
Écoutez, peut-être ça va vous étonner, mais je partirai sur quelque chose de beaucoup plus optimiste.
Ah oui?
Moi, je vois que je viens d'un côté du monde où le contexte politique et légal est très difficile. Et pourtant, je vois beaucoup de personnes LGBT queer lutter au quotidien pour leurs droits. Donc je me dis que malgré l'avancée de la montée de l'extrême droite, il y aura toujours des gens qui vont lutter, qui vont résister et qui vont créer une sorte de résilience, de résistance pour exister. Que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Palestine, partout. Je pense que effectivement, des fois, ce sont des changements qu'on voit qui peut être vus de l'Europe ou du Canada paraissent petites, mais telles qu'elles sont faites dans ces pays-là sont grandes. Et donc, je crois que la droite, l'extrême droite, les conservateurs ne peuvent rien devant la résistance et la résilience des personnes LGBTQ+, dans le monde.
J'aimerais faire appel aussi à tes origines. Soufiane, il y a quand même un conflit épouvantable qui se passe présentement à Gaza. Je pense que là, c'est quelque chose qui est important à parler parce qu'il y a eu... tout à fait récemment, en fait, au début de l'année, des photos qui ont été publiées d'un soldat israélien avec un drapeau de la fierté sur les ruines à Gaza. Comment tu as réagi à ça?
Écoutez, je pense que le concept est déjà validé sociologiquement. Le pinkwashing, on en parle dans les recherches. Moi, je parlerai de mon point de vue en tant que Soufiane, activiste racisé, et queer et gay. Ça me fait mal au cœur de voir que des fois il y a comme des crimes qui peuvent être justifiés justement par aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je pense que justement, même dans les contextes où il y a beaucoup d'homophobie, beaucoup de transphobie, la guerre n'apporte pas de solution. Ce qui apporte la solution, c'est le dialogue. Et moi, en tant qu'activiste LGBTQI+, je lutte pour la vie. Et la lutte pour la cause LGBTQI+, c'est une lutte contre la vie. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être possibles, à part la guerre. Des solutions qui ont été déjà pensées, j'invente rien, si je cite par exemple Edouard Saïd, Ilan Papiop, le nom m'échappe, mais c'est un sociologue israélien qui a déjà apporté des solutions qui peuvent être validées aujourd'hui pour résoudre le conflit. Et je pense que c'est quelque chose qui est possible et j'espère que voilà, ce conflit sera résolu dans la vie, dans l'espoir, dans la paix, mais pas dans la guerre et la mort.
Oui, d'ailleurs, le mouvement de LGBTQI+, maintenant, comme il faut dire, là, par nature, c'est un mouvement pacifiste. Mm-hmm. Hein, c'est pacifiste par nature. Alors, c'est normal qu'on soit tous pour la paix et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas un parti pris là-dedans. C'est parce qu'en tant que communauté qui ont été ostracisées, discriminées, on ne peut qu'appeler à la paix, là. Ça, c'est bien certain.
Mais beaucoup de fierté, puis je vais faire appel à Dave là-dessus, beaucoup de fierté au pays, au Canada et un peu dans le monde, ont eu à concilier les revendications très légitimes des personnes d'origine palestinienne qui manifestaient et les mouvements des fiertés. Puis il y avait quand même des reproches qu'on faisait au niveau du financement, parce que certaines compagnies qui financent aussi des achats de d'équipements de guerre dans ces pays-là. Comment on peut réconcilier ça?
Mais en fait, à Québec, ça a été quand même bien. J'ai personnellement, avec un membre du conseil d'administration, on a rencontré des personnes qui étaient dans le mouvement pro-palestinien. lien avant la fierté. Puis nous, en fait, ce qu'on comprenait, c'est qu'à Québec, c'est une marche de solidarité, contrairement à Montréal, qui est un défilé, qui se veut un peu plus corporatif. Donc là, on comprenait qu'il y avait des enjeux, justement, de pinkwashing, puis de justement de mettre à l'avant là, des compagnies qui était problématique là, aux yeux de ces personnes-là. C'est parfait, mais Québec, nous, en fait, les personnes ont réussi à faire entendre leur message, notamment en marchant avec nous pendant la marche de solidarité. Aussi, à Québec, on a une prise de parole citoyenne. Donc, vraiment, les gens viennent au micro après la fête, après la marche. On se rassemble à Place Douville, puis on écoute ce que les gens ont à dire. Donc, on a entendu beaucoup de messages de nos communautés aujourd'hui par rapport à ça, puis à leur inquiétude, justement, par rapport aux communautés queer en Palestine notamment, puis l'utilisation du pinkwashing par Israël pour justifier ça. Puis tout à l'heure, je le montrais à Michel. J'ai écrit à Benjamin Netanyahu à titre de blague, mais sur Instagram pour lui dire, ben là, sache qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole pendant la fierté à Québec pour te demander de cesser le génocide. Donc voilà, le message a été fait. Je l'ai passé sur l'Instagram du premier ministre israélien.
Ouais. À Montréal, il y avait des affiches, « No Pride in Genocide ». Comment tu te sens vis-à-vis ça quand il y a des manifestations qui arrivent en même temps que nos manifestations de la fierté? Tu es un peu près entre l'arbre et l'écorce, toi, Soufiane?
Ouais. D'abord, je pense qu'il ne faut pas essentialiser. Il y a beaucoup de manifestants pro-palestiniens qui sont pro-LGBTQ+.
Tout à fait, oui.
Je pense que moi, je suis solidaire, ça me fait plaisir, surtout tout à l'heure, lors de la marche, de voir une intersection entre les activistes LGBTQ+, et les activistes pro-palestiniens, et d'ailleurs souvent qui sont les deux. Et je pense que c'est tout à fait possible, et finalement c'est la même lutte, c'est vraiment une lutte pour un monde vivable, respirable, où il y a la paix, où il y a de l'amour, où des histoires d'amour entre des Palestiniens et des Israéliens sont possibles. Je pense que finalement, c'est ça la lutte, ma lutte, la lutte de toute personne LGBTQ+.
Ariane, je pense que j'aimerais ça t'amener à parler parce que vous êtes un couple biracial, si on peut dire, ou binationaux, parce que là, j'aime pas biracial, binationaux. Vous avez un enfant maintenant.
Oui.
Est-ce que tu crains de voir ce qui se passe pour ton enfant?
Bien, j'ai craint. Tu sais, c'est sûr que comme on... Alex, un peu pareil, on est comme un peu les messagers, puis c'est drôle parce que quand on a commencé, Carolina et moi, à penser à former une famille, j'avais pas cette crainte-là. J'avais pas, je me disais, ben mes enfants vont aller à l'école, probablement qu'ils vont avoir des amis, que leurs parents seront également partie de la communauté. Mais puisqu'on a avancé, puis là, maintenant que notre fille est née, ben là, ces craintes sont comme revenues, en disant, tu sais, est-ce qu'on voit une certaine régression? Si on peut dire, à travers le monde, est-ce qu'on rendu à ce qu'elle sera à l'école, rendu à ce qu'elle-même aura des questions, nous, on va pouvoir les répondre, mais quand elle aura des questions et que nous, on ne sera pas là, qu'est-ce qui va l'être, non? Mm-hmm. C'est aussi les craintes actuelles, évidemment. Puis, tu sais, ça ne va pas juste là, tu sais, elle, l'exemple, le donneur est mexicain, parce qu'on souhaitait de rapprocher du côté de sa maman qui est également mexicaine. Donc, tu sais, ce ne sera pas juste une question de « Ah, mes mamans sont lesbiennes », tu sais, ça va au-delà de là, tu sais, ça va de où elle a, de ses origines aussi, là, au travers de ça, là, donc...
Moi, j'ai une question, puis je pense qu'Alexandre, c'est le fun que tu sois là. Votre enfant, est-ce que votre enfant, vous avez déterminé le genre de l'enfant que vous allez attendre?
Nous, on s'est dit, à ma base, moi, ce que je me dis, c'est que si mon enfant peut être juste un garçon, pas avoir à vivre justement une transition, je vais être heureux pour lui. Okay. Pour vrai, pour l'avoir vécu moi-même.
On va s'entendre parce qu'il y a trois sortes de sexe. On va en parler tantôt avec Michel.
Oui, on pourrait rajouter le X sur le certificat de naissance. Oui. Pour ma part, tant qu'il n'y a pas l'âge de pouvoir le spécifier, on a mis M, c'était moins compliqué au niveau de l'état civil puis au niveau des soins de santé.
Vous avez
surtout
pris ce qui était... le corps de quoi valait votre enfant?
Exact. Les organes génitaux à la base, parce que c'est ceux qui étaient évalués là, en santé. Mais tu sais, c'est sûr que nous, on est très ouverts. Là. Si mon enfant me dit que même il n'aime pas son nom, même si ça n'a pas rapport au genre, je vais être très ouvert à le changer. Moi, on est vraiment dans cette vision-là de dire notre enfant, on veut être ouvert à la communication avec nos enfants. Mais je suis un peu, je reviens un peu sur ce que tu disais. T'sais, on a un peu cette crainte-là, nous aussi, même si ça paraît pas. T'sais, moi, j'ai pris un peu le j'ai pris la décision d'être visible aux médias par l'Alliance Arc-en-Ciel. Fait quand il y a des problématiques, c'est moi qui vais devant les médias, qui mentionne mon identité de genre. Donc, c'est sûr que j'ai des craintes des fois de me dire, OK, mais là, si jamais les personnes de la garderie s'en rendent compte, là, quand il va être rendu à l'école, bon, si jamais les profs vous me voient à la télé, là, ils vont le savoir. Est-ce qu'il va avoir un impact sur sa vie, tu sais? C'est sûr qu'on a ces craintes-là. Puis là, je veux pas parler pour ma blonde par rapport à ça, mais moi, je les ai, ces craintes-là, c'est sûr. Mais en même temps, je me dis, en tout cas, j'espère à mieux pour la société, pour les jeunes.
Approche-toi du micro, s'il te plaît, Roselyne.
Bien, en fait, moi, c'est pas juste une question d'ouverture sur la diversité sexuelle, la pluralité des genres. En fait, c'est vraiment plus une ouverture sur tout en général, parce que l'ouverture, ça commence par le bien-être mental, le bien-être au niveau du confort aussi dans sa ville, dans son milieu. Fait que nous, en fait, c'est sûr que moi, mes craintes, en fait, se confirment pas pour l'instant. Je me sens en sécurité dans ma ville. Puis c'est une ville aussi où j'ai choisi d'avoir mes enfants parce que moi, je suis native de Montréal. Fait que c'était très gros comme ville. Puis je voulais qu'à Québec, mes enfants soient bien. Fait que au niveau des enjeux, nous, on va toujours leur ouvrir la porte à des questionnements. Mon fils... Si on va au stéréotype de genre, mon fils, sa couleur préférée, ça a toujours été lila ou rose. Puis pourtant, mon garçon, le soir, il va jouer avec les voitures. Fait que c'est de lui expliquer aussi qu'il n'y a pas des jeux pour les garçons ou des jeux pour les filles ou des couleurs. Fait que ça aussi, ça fait partie de ce qu'on veut leur inculquer au quotidien aussi.
J'aimerais aller à toi, Michel Hubert. Michel, encore une fois, parce que tu as aussi ce regard un peu de quelqu'un qui a vécu à l'extérieur. Quand tu regardes où on est rendu maintenant... Est-ce que tu as des craintes? Comment tu regardes notre monde présentement?
Oui, c'est vrai. C'est sûr que moi, je viens de France. Je suis parti de France avant le mariage gay. Je suis retourné en France pour manifester à l'époque. En fait, la sécurité des LGBT était... Un des arguments qui m'a fait émigrer au Canada, en fait. Je ne me sentais pas forcément en sécurité, je ne me sentais pas forcément à l'aise d'être moi-même en France. Ça fait partie des raisons qui m'ont fait venir au Canada. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a un mouvement mondial de montée de l'extrême droite. Il faut quand même être positif. Les choses évoluent, mais dans beaucoup de pays non occidentaux, par exemple en Thaïlande. Ça progresse beaucoup en ce moment. C'est plutôt... en Occident, qu'il y a une montée de l'extrême droite, une montée des nationalismes, qui est très transphobe, LGBTQ-phobe, etc. C'est vraiment une question d'identité de l'Occident, parce que dans le reste du monde, ça progresse quand même. Même dans les pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, oui, il y a la question de la religion, oui, la question politique, et les gains sont petits, mais ça progresse, alors que ce qu'on voit en Occident, c'est une espèce de vague qui nous pousse à reculer. Et oui, j'ai peur. Moi, j'ai migré ici pour me sentir en sécurité. Oui, j'ai peur que ça progresse. En Europe, on le voit avec les pays de l'Est. En Amérique du Nord, on le voit avec les États-Unis. Oui, j'ai peur. C'est Simone de Beauvoir qui disait qu'il suffit d'une crise politique ou d'une crise économique pour que les droits soient annulés, enfin qu'on nous retire nos droits. Elle disait ça concernant le droit des femmes, mais ça s'applique aussi aux droits des LGBT. Oui, j'ai peur qu'il y ait une évolution négative en Occident.
Oui, d'autant que l'Occident exporte sa haine aussi, oui, à travers certaines religions notamment, pas certaines, à travers des mouvements politiques, mais à travers des religions qui sont très, très homophobes et très, très transphobe. Alors ça, c'est un danger parce que l'Occident, sur le plan idéologique, occupe beaucoup de place. Et on sait que certains pays africains, par exemple, sont ciblés par la droite religieuse. Alors oui, ça bouge, il n'y a jamais rien de fixé. On le disait tantôt, la Russie et l'Allemagne ont été les pays les plus progressistes il y a 100 ans, puis quelques années après, c'était tout à fait l'inverse avec les camps de concentration, des centaines de milliers de personnes exterminées qui étaient LGBT. Alors oui, ça peut changer, mais il faut s'en occuper. Moi, je pense que le fait d'en être conscient, tu as bien raison, le fait de mobiliser toutes les forces possibles, parce que c'est des rapports de force. Hein. On ne peut pas... Tu parlais de vote tantôt. Oui. Mais c'est ça, là. tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui vont se décider dans les prochains mois, puis ici aussi, peut-être aussi.
Oui, alors, parce qu'il y a quand même la version canadienne de Donald Trump qui on pourrait peut-être...
Faut être vigilant.
Comme tu disais tantôt, tu sais, avec les États-Unis, ce qui se passe actuellement, tous les projets de loi qu'il y a eu, etc. Tu sais, moi, je vois la communauté trans, je suis beaucoup en soutien avec eux, puis au niveau de la santé, tu sais, je fais beaucoup de formation parce que dans les régions, on a des problématiques, mais les gens trans ont peur parce que aux États-Unis, un professionnel de la santé peut refuser de traiter une personne trans et c'est légal. Là. Le docteur peut dire non, je te soigne pas parce que t'es trans. Fait que c'est sûr que on est proche là, le Canada et les États-Unis, donc la communauté trans du Canada et du Québec ont peur de ça.
Ouais. Sofiane, t'es la personne toujours assez positive, toi. Comment tu vois ça?
Écoutez, ouais, je reste très positif parce que moi, j'ai la chance ou le privilège, si vous voulez, de suivre ce qui se passe un peu partout dans le monde, y compris au Maghreb, en Afrique, au Moyen-Orient. Et je pense réellement qu'il y a des portes qui s'ouvrent aujourd'hui. Il y a des choses, effectivement, comme a dit Michel, qu'on peut voir comme petites d'ici, mais qui sont énormes. Parler des sujets, il y a des mouvements féministes qui sont très solides, qui sont très en action. Il y a des personnes queer qui créent des initiatives magnifiques à travers l'art, à travers le dialogue. Ils arrivent à créer une sorte de démocratie participative alternative en travaillant avec les communautés. Et je pense que ça ne peut pas passer inaperçu et ça fera face et barrière à toute oppression conservatrice ou de droite. Je dirais juste peut-être pour finir, justement, parce qu'on a parlé du conflit israélien, il ne faut pas oublier qu'en Israël, c'est un mouvement d'extrême droite. Et je pense que c'est aussi une opportunité pour voir de quoi un mouvement d'extrême droite est capable, justement, pour prévenir nos pays, que ce soit le Canada ou en Europe.
Je vais amener Brian Saint-Louis, parce que Brian fait la chronique littéraire à notre émission. Puis Brian, dans les livres, est-ce qu'on sent cette espèce de mouvement dans nos communautés? Est-ce qu'on l'a vu venir ou on le décrit? Je pense à ce livre dont tu as fait la critique, je ne me rappelle plus, mais c'est un auteur russe.
Oui, mais justement, c'est ça que je suis en train de penser. C'était Les espèces dangereuses.
Les espèces dangereuses, voilà.
Sergei Chkalov.
Que j'ai lu, que j'ai trouvé formidable, d'ailleurs.
Oui, c'est un très bon livre à lire. Justement, quand on voit la montée de courants plus conservateurs, tu sais, je me promenais sur Saint-Jean hier, puis j'ai dit, de la fierté, c'est tellement rendu. Avant, c'était que gay, que lesbienne, puis maintenant, on voit comme toutes les autres communautés, qui c'est eux en ce moment qui sont en train de réclamer leurs droits, puis on a comme un peu l'impression, les gays puis les lesbiennes, c'est réglé. Les espèces dangereuses, Sergei Chkalov, c'est de voir qu'en Russie, oui, c'est un milieu complètement différent, c'est autre chose, mais ça peut aller tellement rapidement. C'était des droits qu'ils avaient acquis après l'indépendance de la Russie et de l'Union soviétique. Ils avaient eu des droits, c'était les lois étaient passées, ça allait vers le mieux. Et à quelle vitesse tout ça a été perdu? C'est ça qu'il ne faut jamais oublier, c'est de voir que même ici, avec la montée de courants plus conservateurs, justement, il y a des lois qui peuvent se faire changer excessivement rapidement. Puis nos droits qu'on a si durement acquis, ça pourrait nous glisser très rapidement entre les mains.
Dave, je te donne le mot de la fin.
Ben, en fait, je veux vraiment appuyer ce que Brian a dit en parlant du projet de loi 2 qui a été déposé il y a quelques années là, à l'Assemblée nationale, qui visait justement là, les communautés trans puis qui était problématique pour qu'ils puissent faire leur changement de sexe, ils devaient avoir une opération. Donc, on a réussi à faire changer ce projet de loi-là, mais reste qu'on n'est jamais à l'abri de ça, d'un recul d'un projet de loi puis de régresser, puis c'est dangereux.
Mais il faut se faire entendre, ce que tu viens de dire, David, est très, très important. Je pense que si les gens ne viennent pas cogner à ta porte, va cogner à la leur, parce que je pense que les gens qui nous représentent, là, si on veut bien qu'ils nous représentent, il faut être vocal. Il faut se faire entendre.
Tu as raison.
L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin-Chabot.